Parfait.
C'est le Super Daily. Super Daily. C'est le Super Daily.
Toute l'actu social média servie sur un podcast.
Bonjour à toutes et à tous, je suis Thibaut Tourvieille de La Broue et vous écoutez Le Super Daily. Le Super Daily, c'est le podcast quotidien qui décrypte avec vous l'actualité des médias sociaux. Ce matin, on va parler de marque média et pour m'accompagner, je suis avec Adjane Chélil.
Salut Thibaut, j'espère que tu vas bien.
Très bien, toi, ça roule ?
Bah écoute, à part ce début de saison cataclysmique de l'Olympique Lyonnais, une marque média qui m'envoie pas du contenu très sympa depuis quelques temps, mais sinon ça va, sinon
est,
je m'en sors.
Il est bientôt en deuil, je te sens pas bien, ouais, c'est mal parti. Bon, on fera, je t'autorise un petit point footballistique une fois par trimestre.
Ouais voilà, donc pas plus, bien vois, là ça faisait longtemps, fallait que je mette une petite touche.
Alors
musique demain.
Les amis, est-ce qu'une marque peut vraiment devenir un média ? C'est le sujet de notre épisode du jour. Parce que dans un contexte médiatique et publicitaire extrêmement saturé, eh bien, les marques, elles ont fait de la création de leur contenu eh bien, un canal de communication prioritaire. Certaines ont même, attention, l'odieuse prétention de devenir carrément des médias, au grand drame de certains médias justement traditionnels. Mais est-ce qu'une marque, elle peut vraiment devenir un média légitime ? C'est la question.
Ouais, effectivement, c'est la question qu'on peut se poser aujourd'hui quand on analyse un petit peu les stratégies de communication des plus grandes marques. On sait que les réseaux sociaux ont ouvert des canaux directs, hein, et continuent entre les consommateurs et les marques, des canaux qui sont plus que top-down, mais aussi interactionnels. Donc que les consommateurs peuvent aller interpeller les marques, mais que les marques peuvent aussi être maîtres du contenu qu'ils distribuent aux consommateurs. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de petites choses qui nous font dire qu'effectivement, il y a de plus en plus de marques qui tentent en tout cas de devenir des médias, à voir si c'est vraiment possible.
Oui, avec un point de départ qui est qu'en l'espace de 10 ans, eh bien, il y a eu une explosion d'outils digitaux à disposition des marques pour créer du contenu et puis aussi pour le diffuser. On peut en citer quelques-uns, il y en a légion.
Ah oui, c'est vrai qu'il y a énormément d'outils qui sont nés et qui permettent d'avoir son propre média. Les marques peuvent effectivement profiter par exemple des stories Snapchat ou Instagram, de chaînes YouTube, de blogs communautaires, de billets LinkedIn, de podcasts, de newsletters, de webzines. Enfin, il y a tout un tas de supports et de nouveaux supports qui sont en place depuis une dizaine d'années qui permettent effectivement aux marques de diffuser leur propre contenu.
Voilà, et donc du coup, elles sont forcément de plus en plus nombreuses à créer leurs propres médias, créer leur propre contenu, plus qu'uniquement à investir exclusivement, comme c'était pouvait être le cas avant, dans de l'achat d'espaces publicitaires, en presse écrite, en télé, en ligne, etc. C'est peut-être d'ailleurs pour ça que les médias traditionnels râlent, hein. Il y a peut-être un lien.
Ah bah oui, c'est sûr qu'il y a un lien. Et puis, effectivement, devenir un média comme ça pour une marque, c'est ne plus passer par le prisme des journalismes. Il n'y a plus d'intermédiaires. La ligne est directe entre le service marketing et communication d'une marque et les consommateurs. Donc, il n'y a plus besoin de... Enfin, plus besoin, entre guillemets, hein, la plupart des marques le font toujours, mais d'aller envahir les consommateurs de publicités redondantes, mais plutôt de les amener à considérer la marque comme utile, divertissante, intéressante, construire ce qu'on pourrait appeler une love brand au final.
Ouais, tu as raison. Alors, avant de continuer sur cette logique de marque média et de brand content, ce qu'il faut quand même dire, c'est que la publicité native, ce n'est pas du brand content. J'insiste là-dessus parce que bien souvent, il y a une sorte de confusion qui est faite. Et c'est vrai que le lien un peu complexe qu'entretiennent les marques avec notamment les nouveaux médias pure player, brouille un peu les pistes. Alors, je vais te donner un exemple concret.
Alors,
cette fameuse vidéo dont, sur laquelle tu es peut-être tombé, de Combini, qui produit une vidéo pour la marque de glace Häagen-Dazs, et on ne sait pas trop où on est. C'est-à-dire, c'est quoi ? Je suis sur un nouveau média, c'est Combini. Déjà, est-ce que c'est un média légitime, tradit, etc. Et puis ensuite, j'ai un truc qui ressemble à un reportage, mais qui en fait est clairement un contenu produit pour le compte d'une marque. Et c'est vrai que là, franchement, il y a un peu confusion des genres. Et ça, les amis, eh ben, ce n'est pas du brand content, c'est ce qu'on appelle de la publicité native.
Oui, c'est même au final presque une sponsorisation d'une marque sur le contenu d'un média. Et au final, ça ressemble beaucoup au fonctionnement des médias traditionnels d'avant, c'est-à-dire quand les médias achetaient des pages de publicité au milieu des reportages que vous pouvez trouver dans les journaux ou à la télévision. Et d'ailleurs, c'est pour ça que tu parlais tout à l'heure des médias traditionnels qui se plaignent un petit peu des marques qui veulent devenir leurs propres médias, c'est aussi parce que comme les marques deviennent leurs propres médias, elles achètent moins en moins d'espace publicitaire dans les médias. Donc, petit à petit, leurs revenus sont en baisse aussi dans les médias traditionnels.
Voilà, soyons clairs, Agendas, en faisant produire ce type de contenu, ne devient pas une marque média, pas du tout. C'est du publi-reportage, c'est de la publicité native. C'est une marque, Agendas, qui achète les services de production, puis aussi et surtout l'audience d'un média pour raconter son histoire de marque. C'est très, très différent d'une marque qui chercherait à travailler et à créer sa propre audience, et c'est là où se situe ce qu'on appelle la marque média. Donc, c'est un gros distinguo qui me semblait important de préciser.
Oui, tu as raison, et je pense qu'il faut parler du contenu pour bien comprendre ce qu'est une marque média. Effectivement, entre le contenu de marque natif ou le contenu de marque qui sponsorise des reportages comme là avec Agendas et le brand content, le vrai contenu de marque qui amène une plus-value, qui fait que vous devenez un média, il y a une grande différence, effectivement.
Ouais, et donc, tu parles de brand content, ça, c'est intéressant parce que contrairement, on imagine que le brand content, c'est un truc qui a moins de 10 ans, qui a été créé à l'ère du digital, mais en fait, pas du tout. Hein. on a quand même des exemples assez notables et qui datent. Le premier dont je voudrais parler, c'est John Deere. John Deere et son magazine The Furrow, le sillon en anglais. Ben là, on a carrément la naissance de la première marque média. Hein. On est en 1895 et c'est le tout premier cas de marque qui crée un média. En gros, John Deere, cette marque de tracteur, tu vois, avec le vert, il lance un magazine qui est destiné aux clients. Le client, c'est les agriculteurs sur les meilleures méthodes à appliquer pour optimiser leur travail et leur récolte. Voilà, ça, c'est clairement un premier exemple. Et c'est aujourd'hui, le magazine existe encore d'ailleurs. C'est assez, assez cool. Et puis, on pourrait parler évidemment du guide Michelin.
Bien sûr, on a un autre que tout le monde connaît, c'est le guide Michelin. Dès 1900, donc on était encore loin des réseaux sociaux, effectivement, Michelin crée son propre brand content. Et à l'époque, du coup, le vendeur de pneumatiques cherche à mettre en avant une des valeurs qui est défendue par la marque. Parce que être un média et créer du brand content, c'est créer du contenu de marque qui reflète les valeurs de la marque et l'identité de la marque. Et là, la valeur défendue par Michelin, c'est la mobilité. Et donc, Michelin sort le fameux guide Michelin en distribution gratuite, donc dans toute la France, avec tout un tas d'adresses pour trouver par exemple du carburant, des restaurants comme on connaît maintenant, des lieux à visiter, et on retrouve aussi des plans de certaines villes françaises à l'intérieur. Le but, amener de la valeur ajoutée à n'importe qui aimerait pouvoir se déplacer, qui aimerait donc avoir une voiture, et qui dit avoir une voiture, à acheter des pneus, donc Michelin. Voilà.
Ouais, et aujourd'hui, puisqu'on parle de légitimité de marque à devenir un média, on peut quand même pas difficilement imaginer plus légitime que le guide Michelin en matière de médias gastronomiques. Hein. Donc, comme quoi, on peut être une marque et être légitime en tant que média. Alors, qu'est-ce qu'il faut pour une marque pour devenir un média crédible? Tu as commencé à donner des pistes là-dessus. Il ne s'agit pas uniquement de s'approprier les codes du journalisme, c'est-à-dire de faire un guide parce que c'est ce que font les journalistes, ou de faire un magazine parce que c'est ce que font les médias traditionnels. Ce n'est pas vraiment ça. Et surtout, il s'agit de ne pas vendre sa camelote. Ça, c'est quand même le gros enjeu. Oui. Si je suis là pour vendre ma camelote, ce n'est pas du média, c'est de la pub, c'est un catalogue publicitaire. Un bon brand content, il doit apporter du sens, tu l'as dit, de l'utilité, ça, c'est quand même prioritaire. Et puis, créer du lien.
Et oui, on voit que c'est ça qui est le plus difficile du côté des marques encore aujourd'hui, c'est de se dire pourquoi je dépenserais du budget, du temps, de l'énergie sur quelque chose où je ne vends pas ce que je vends habituellement, où je suis pas en train de vendre quelque chose d'ailleurs, je suis juste en train de donner quelque chose à des gens, à une audience, souvent gratuitement. Et tout ça parce qu'on me dit qu'il faut que je crée du lien avec ces personnes-là qui, si ça se trouve, pour l'instant, ne consomment même pas les produits que j'ai à offrir. Donc, c'est sûr que c'est souvent là qu'il y a un petit décalage à l'intérieur des marques qui ont du mal à sauter le pas de devenir un média.
Et voilà. Et là, je vais invoquer du coup Simon Sinek. Hein. J'invoque carrément les astres.
Ah ouais, on est comme
les
ça
astres
ici.
Du marketing.
Il y a des invocations maintenant.
Simon Sinek, lui, revenons aux fondamentaux, les amis. Le why, le how, le what, le pourquoi ma marque elle existe, qu'est-ce qu'elle vend, etc. Il y a quand même trois piliers importants. Allez voir la vidéo que je vous mets en note de ce podcast si vous ne la connaissez pas, de Simon Sinek. Parce que la tentation, évidemment, quand on produit du contenu de marque, c'est de plonger sur le what, le quoi, mon offre, qu'est-ce que j'ai comme camelote à vendre. Mais pour concevoir un bon brand content et puis pour transformer ma marque en média, ce qu'il faut, c'est aller chercher le why, le pourquoi ma marque elle existe. C'est ce qu'a fait Michelin avec la thématique de la mobilité. Ils veulent être un partenaire de la mobilité des gens. C'est ce qu'a fait John Deere à l'époque en disant « Nous, on est du côté des agriculteurs et on veut aider à ce que les agriculteurs puissent vivre une vie meilleure. » Ça, c'est le why d'une marque. Et c'est là-dessus qu'un média, une marque, a un capital à créer son média.
C'est clair. Et puis, ça oppose deux choses qui doivent aller l'un avec l'autre. C'est le temps long et le temps court.
Ouais.
Effectivement, quand on décide de partir dans une stratégie où on veut devenir un média, on veut créer du contenu de marque, il faut réfléchir sur un calendrier qui est un calendrier de temps long, qui n'est plus un calendrier de temps court comme la publicité peut imposer, avec une pub qui va être répétée à outrance dans un temps très court pour qu'un consommateur se dise c'est absolument ce tracteur-là qu'il faut que j'achète. Non, là on est en train de créer un lien, et créer un lien avec quelqu'un, ça prend du temps, c'est comme une relation entre des êtres humains, ça prend du temps pour créer de la proximité, un lien, ça se fait pas en 10 minutes de publicité.
Et ça oblige à donner aussi, parce qu'on devient, on crée pas du lien si on donne pas quelque chose, et il faut donner autre chose que des bons de réduction. Hein. Je vous le dis si vous aviez un doute. les consommateurs, eux, de leur côté, bah, eux, ils font bien le distinguo entre contenu de marque et média. Ça, c'est intéressant aussi à souligner, c'est que, soyons clairs, aujourd'hui, l'antagonisme entre marque et média, franchement, il n'y a aucune marque qui a vraiment l'ambition de concurrencer les médias. Hein. C'est pas le sujet, l'idée, c'est de coexister sans doute à côté des médias traditionnels. Et du côté des audiences, eux, ils sont tout à fait capables de distinguer les contenus créés par une marque des contenus médias classiques, à la différence peut-être du public rédactionnel, où là c'est plus fou. Mais si on parle du brand content, quand on lit le guide Michelin, on sait que c'est édité par le guide Michelin. Voilà. Et là-dessus, il y a une étude qui est sortie en 2019 qui s'appelle Dimension 2019 par Kantar, qui nous donne quelques chiffres intéressants. Et notamment, ils disent que les consommateurs sont ultra exigeants quant aux contenus qui sont produits par les marques, et ils sont 67% d'entre eux à estimer important de pouvoir identifier les communications créées et payées par des marques. Donc la transparence est de mise.
Oui, bien sûr. Étant donné que vous n'êtes pas un média à la base, vous allez devoir sûrement prouver deux fois plus qu'un média traditionnel pour arriver à proposer du contenu de qualité à vos consommateurs. Les consommateurs sont toujours un petit peu plus méfiants au départ parce que vous représentez une entreprise, une industrie, etc. Vous n'êtes pas des journalistes, vous n'êtes pas un média, donc ils seront un petit peu plus méfiants envers vous, quoique, puisque ces derniers temps, on est assez méfiants des journalistes aussi, mais ils seront un peu plus méfiants, donc ça voudra dire qu'il faudra faire peut-être deux fois plus de preuves que des journalistes classiques, effectivement en jouant la carte de la transparence, mais aussi en ayant un contenu qui soit d'une extrême qualité.
Voilà les amis, donc quelques marques qui nous semblaient, revenons au sujet, est-ce qu'une marque peut être un média légitime? Allez, nous on a quelques case studies qui vont vous prouver, si ce n'était pas encore le cas, que c'est tout à fait possible. Et je voudrais parler de Leroy Merlin avec Du Côté de Chez Vous. Ça c'est quand même une success story géniale. Ouais. Aujourd'hui, Du Côté de Chez Vous, c'est une vraie marque média qui a été créée par Leroy Merlin, il y a presque 20 ans, ça c'est quand même dingue. Initialement, c'était un magazine papier qui était distribué aux clients du magasin, et puis aussi vendu en kiosque. Hein. Et puis c'est devenu un programme court en télé, et aujourd'hui c'est surtout un dispositif de brand content en ligne et social media qui est terriblement efficace. Je te donne juste 2-3 datas, un compte Instagram avec plus de 32 000 followers, une page Facebook avec 153 000 abonnés, un compte Pinterest avec 635 000 visiteurs par mois.
Wow.
Autant te dire que là, en termes, ça pèse vraiment fort et que c'est un vrai média. Et là, ce qui est intéressant, c'est que la marque Du Côté de Chez Vous, elle fonctionne comme un vrai média parce que justement, il n'y a pas de promo en magasin, il n'y a pas de bon de réduction. Elle a une promesse, et cette promesse, c'est de nourrir la créativité de ses audiences. Tiens, ça ressemble vachement à un why, ça, un pourquoi de marque. Ça ressemble peut-être même au why de Leroy Merlin. Tiens. Et la marque, aujourd'hui, elle fonctionne comme un vrai média qui traite de l'habitat, de la décoration, des tendances autour de la maison. Et puis, qu'est-ce que ça lui a permis? Ça lui a permis de créer une audience, son audience, qui est une audience fidèle, qui est une audience qui a vraiment tissé un lien avec Leroy Merlin. Et peut-être que Leroy Merlin est même en train de devenir une love brand. C'est ce que tu disais tout à l'heure.
Oui, effectivement, Leroy Merlin, on l'a bien vu avec cet exemple-là. Moi, j'ai aussi l'exemple de Red Bull. Alors là, je ne les présente plus parce que pour moi, c'est un petit peu les rois de la marque média. Il n'y a même pas de chiffres à vous donner. La marque Red Bull, c'est le parfait exemple avec la Red Bull Media House. Ils ont créé un véritable empire médiatique. C'est devenu vraiment un média sur tous les fronts. Ils ont une chaîne TV sur Internet avec Red Bull TV. Ils ont un magazine, The Red Bulletin. Ils produisent des contenus autour du sport avec la Formule 1, le ski, le e-sport, le base jump, pas mal sur les sports extrêmes aussi. Et puis, ils sont devenus un acteur carrément central de l'industrie de la musique avec la Red Bull Academy ou même le Red Bull Music Festival. Et tout ça sans à l'intérieur de tous ces moyens mis en place, vendre leurs boissons énergisantes. Ce n'est pas le but de ce qu'ils font. Alors,
il y a aussi un argumentaire sur le goût du produit, ça tombe bien parce que c'est dégueu.
Exactement. Et pourtant, ça reste les numéros 1 de la boisson énergisante et c'est devenu un média qui est connu de tous.
Ouais, et d'ailleurs, son fondateur, Dietrich Mateschitz, alors je m'excuse, je le prononce mal, dit carrément, hein, Red Bull est une entreprise média qui vend notamment des boissons énergétiques. J'aime bien le clin d'œil, c'est assez drôle.
Voilà, c'est ça.
Voilà, donc lui, il met les deux pieds dedans. Allez, un dernier exemple, cette fois-ci franco-français, avec Gémio. Gémio, la marque de bijouterie franco-française, Made in France, qui elle aussi a un certain nombre d'outils et de contenus pour transformer sa marque en média. Et on peut notamment parler, évidemment, de leur podcast, Chalalove.
Effectivement, on connaît tous, je pense que la plupart d'entre nous connaissent la marque de bijoux. Et donc, ils ont créé un podcast, mais non pas pour vendre des bijoux dans leur podcast, mais plutôt pour parler d'amour. Donc, dans ce podcast, on tombe sur des témoignages de couples qui nous racontent pourquoi, comment ils sont tombés amoureux. Et du coup, le but du podcast, c'est vraiment de décortiquer ce qu'est l'amour. Et en fait, quand on y réfléchit, on se dit que l'amour, c'est une des premières raisons pour lesquelles on achète un bijou. Donc,
et l'amour, c'est ce qu'il y a de plus beau.
Ça, c'est, t'as bien raison de finir comme ça.
Voilà, et là encore, on en revient au why. Donc, les amis, vous aurez compris, le sujet, si votre marque souhaite se transformer en média et pour qu'elle soit réellement légitime, oubliez le what, pensez au why, pensez à vos valeurs de marque, pourquoi vous le faites. Et là, il y a un territoire d'expression qui s'ouvre et puis aussi un lieu où vous allez pouvoir créer du lien avec vos audiences. Voilà ce qu'on pouvait se dire ce matin.
Exactement. Si vous avez des questions à nous poser ou si vous voulez prolonger ce débat des marques médias sur les réseaux sociaux, n'hésitez pas à venir nous en parler @supernatif sur Instagram, Twitter, LinkedIn ou Facebook, bien sûr. Et puis, vous êtes en train d'écouter ce podcast sur une plateforme de streaming, donc n'hésitez pas à nous laisser une note, un commentaire ou en parler autour de vous.
Merci à vous tous, on vous souhaite une très très belle journée et on vous donne rendez-vous dès demain.
Allez, ciao. Salut. Ciao.